prophète de l'espérance.
La situation, le peuple de Dieu, d'hier à aujourd'hui.
Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Israël connaît un temps d'exil à Babylone après la destruction du temple de Jérusalem. Le peuple de Dieu vit cette période comme un temps d'épreuve spirituelle. Beaucoup pensent que le Seigneur les a abandonnés et se découragent. Certains se détournent de lui. On peine à imaginer leur douleur et leurs doutes quand cette terre promise par Dieu leur a été arrachée et le temple détruit. Quel espoir pouvait-il rester à ces gens exilés, loin de tout, étrangers sur une terre étrangère ? Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Il leur a envoyé ceux qui crient dans le désert, rappellent la nécessité de la conversion et affirment la promesse du retour dans la ville sainte, les prophètes. Parmi eux se trouvent Ézéchiel et Jérémie. Le premier transmet ce message extraordinaire d'espérance que nous connaissons bien. « Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » Et Jérémie rassure et annonce. « Moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Libéré en 538 avant Jésus-Christ par Cyrus, roi des Perses, Israël pourra effectivement revenir en terre promise. Ils ne sont plus très nombreux, presque anéantis, mais à partir de ce petit reste, Dieu fera renaître son peuple et le temple de Jérusalem sera rebâti. La fidélité et la persévérance de ses croyants sont récompensées, la vie reprend. Dieu tient sa promesse. Au premier siècle de l'ère chrétienne, après les événements de la Passion, ils ne sont plus très nombreux non plus. Après avoir évoqué sa mort prochaine, la trahison par l'un d'entre eux, Jésus leur avait demandé « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Non, ils sont là, les onze, ils ne sont pas partis. Leurs cœurs sont encore illuminés par la multiplication des pains, la guérison du paralytique, la tempête apaisée. Leurs intelligences sont encore habitées par les béatitudes, les paraboles, le discours du pain de vie. Les temps de prière avec Jésus à l'écart les ont profondément marqués, surtout Pierre, Jacques et Jean. Mais aussi l'arrestation de Jésus, le chemin de croix, les moqueries, la couronne d'épines, le partage de son vêtement, la crucifixion. Et surtout, la découverte du tombeau vide, le récit des disciples d'Emmaüs, les paroles de Jésus à Thomas et à Pierre. Et ce « n'ayez pas peur ». Pourtant, les voilà réunis au Cénacle, enfermés dans la peur. Ils vivent, eux aussi, l'apparence de l'échec. Eux seuls, avec quelques femmes, savent pour la résurrection. Comment l'annoncer ? Comment en parler ? Les croira-t-on ? Les voilà seuls face à une mission qui les dépasse. Et si on leur faisait subir le même sort qu'à Jésus ? Ils constituent la communauté apostolique, la toute première Église. Marie est là aussi et prie avec eux. C'est l'effusion de l'Esprit-Saint au jour de Pentecôte qui les libère et les pousse à annoncer l'Évangile de telle sorte que tous leurs auditeurs les comprenaient dans leur propre langue. C'est la puissance de Dieu qui fera dire par Pierre aux mendiants de la Belle Porte « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et ils seront ensuite des milliers de nouveaux croyants à être accueillis dans la communauté de l'Église. Aujourd'hui, comme partout en Europe occidentale, notre Église est comme un petit reste en exil. Nous sommes minoritaires. Le pape François le disait lors de ses vœux à la Curie romaine le 21 décembre 2019. Nous ne sommes plus en chrétienté, nous ne le sommes plus. Nous ne sommes plus les seuls aujourd'hui à produire la culture, ni les premiers, ni les plus écoutés. Nous ne sommes plus dans un régime de chrétienté parce que la foi, spécialement en Europe, mais aussi dans une grande partie de l'Occident, ne constitue plus un présupposé évident du vivre ensemble. Pire, elle est souvent même niée, raillée, marginalisée et ridiculisée. Un vrai temps d'épreuve, où certains se découragent, pensant que le Seigneur a abandonné ses enfants. Pourtant, les merveilles de Dieu nous sont dévoilées de jour en jour. Ces adultes qui demandent le baptême, ces chrétiens engagés si activement dans le service des plus vulnérables, dans l'accueil des enfants, ces pèlerinages fervents ici ou à Lourdes, des jeunes volontaires en coopération, les fidèles qui participent à l'adoration eucharistique permanente, les chrétiens engagés dans les milieux populaires, les enfants priant pour les vocations, nos écoles catholiques, une récollection diocésaine pour tous, les consacrés et ministres ordonnés qui rappellent que l'amour de Dieu peut combler le cœur, et tant d'autres témoignages, autant de lumières d'espérance. J'en suis témoin lors de mes visites pastorales. Dans cette situation, nous exprimons ensemble notre admiration et notre reconnaissance à tous ceux qui ont témoigné et témoignent encore aujourd'hui d'une belle fidélité et d'une grande persévérance. Les bénévoles en paroisse, les catéchistes, les laïcs en mission, les enseignants, les religieuses, les diacres, les prêtres, les évêques. Mais c'est un fait. La vitalité d'hier s'est estompée. Nos communautés se trouvent aujourd'hui très réduites et la transmission n'est plus spontanée dans beaucoup de nos familles. Les demandes de débaptisation se multiplient. Des profanations ont lieu par centaines chaque année en France. Beaucoup de chrétiens quittent l'Église avec fracas ou sans faire de bruit. Certains sont trop meurtris par les abus spirituels ou sexuels qui ont eu lieu en son sein, sans réaction appropriée. Les jeunes générations semblent absentes, ou presque. Beaucoup perçoivent l'Église comme une affaire de personnes âgées qui n'a pas le langage pour les intéresser. La foi en Jésus Sauveur ne parlerait-elle plus à notre humanité blessée? Le message du salut peut-il encore être entendu? Nous sommes au milieu d'un immense désert. Il n'y a pas que le désert médical, désert social et précarité, désert fraternel et violence, désert affectif et solitude, désert spirituel et indifférence. Un regard réaliste sur les données statistiques nous montre que les courbes des baptêmes, de la catéchèse et des mariages se sont effondrées en 50 ans. Le père Joël Morlet écrivait dans un article en Rural les ressources de la foi pour des pratiques humanisantes « La civilisation paroissiale tente de se maintenir, mais cela ressemble quelquefois déjà à une préservation de vestiges. » Mais le déclin ne doit pas nous endormir ou nous satisfaire. Dans les Actes des apôtres, on trouve 27 refrains de croissance. J'en suis convaincu, nous allons vers de petites communautés de croyants qui confesseront la foi et chercheront à faire de nouveaux croyants. Plus encore que le pasteur qui laisse 99 brebis pour chercher la seule qui est perdue, il nous faut aller à la recherche des 99 brebis qui se sont éloignées du troupeau. La mission de l'évêque consiste à accompagner ce changement profond, tel un prophète de l'espérance. La traversée du désert est une épreuve qui doit déboucher sur la terre promise, ruisselant de lait et de miel. Le désert est en effet un lieu de purification, de contemplation et d'entraide, duquel nous sortirons renouvelés, relevé, ressuscité. Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert, lieu du combat spirituel, de la prière, de l'espérance. Comme Jérémie, je vous le dis très paisiblement, sachons rendre grâce pour ce que nous sommes et ce que nous vivons. Ne nous lamentons pas en regardant le passé avec nostalgie. Ne disons pas que nous avons tout essayé. Ne nous épuisons pas à vouloir tout faire et être partout. Faisons des choix, et d'abord un choix spirituel. Convertissons-nous. Tournons-nous vers le Christ Sauveur. Accueillons Jésus. Vivons l'effusion de l'Esprit. Aimons l'Église comme elle est. Voilà déjà 4 années vécues comme chrétien avec vous et évêque pour vous, selon les mots de saint Augustin. Plusieurs étapes méritent d'être rappelées. Dès mon ordination à la cathédrale le 28 février 2016, je recevais dans mon cœur l'appel de l'église de Châlons, lu par le père Joël Morlaix, administrateur diocésain. Par la force de cet esprit, nous attendons de vous, pour notre église diocésaine, un surcroît de dynamisme et une part de renouvellement. L'évangile que nous annonçons doit être un souffle d'espérance pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Il doit être annonce de la miséricorde du Père. Sur ces points, nous attendons beaucoup de vous. Le jour de la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions, le 1er octobre 2016, je vous ai donné une lettre pastorale, disciple missionnaire, reprenant l'expression chère au pape François, qui invite toutes les communautés à avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Dans les jours qui ont suivi, j'ai débuté des consultations auprès des prêtres, des diacres, des équipes pastorales de conduite, des communautés religieuses, proposant à leur réaction des projets pour répondre à cette exhortation de l'évêque de Rome. À la Pentecôte 2017, je publiais « Avance au large, mission 2020 », avec 4 orientations à mettre en pratique le mieux possible et la perspective d'un projet missionnaire en 2020. Est venue en 2019 la consultation « 8 questions pour l'avenir du diocèse », à laquelle 500 personnes ont répondu. D'aucuns ne s'y sont pas bien retrouvés, c'est vrai. Mais des propositions en ont été extraites, et j'ai animé des forums de discussion à l'automne dans chaque espace missionnaire et avec des jeunes, rencontrant ainsi environ 450 personnes. Pendant ces 4 dernières années, nos assemblées diocésaines nous ont permis de réfléchir, en 2016, à la conversion pastorale et missionnaire, en 2017, à la construction d'un projet missionnaire, en 2018, à la créativité missionnaire. En 2019, nous avons travaillé les propositions issues de la consultation. J'ai porté tout cela dans ma prière quotidienne. Nous connaissons « voir, juger, agir ». Le pape dit « écouter, discerner, choisir ». J'ai pris le temps de voir et d'écouter. Il me fallait discerner dans la lumière de l'Esprit Saint. Le temps de l'action est venu pour nous tous.